Alors, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils Jésus dans le monde en obéissant, en choisissant, pardon, une vierge du nom de Marie. Et dans les versets que nous avons lus ce matin, dans les versets 18 à 23, eh bien, tout cela, il est écrit que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cependant, parce que Jésus viendrait comme un bébé sans défense et parce que Dieu avait envoyé, pardon, son fils dans ce monde pour vivre dans la pauvreté et non dans la richesse, bien, il aurait besoin, un grand besoin de quelqu'un pour pouvoir à ses besoins. Dieu va se choisir un homme. Et cet homme, eh bien, il s'appelle Joseph pour pouvoir veiller sur son fils bien-aimé jusqu'à ce que le ministère terrestre que Jésus devait exercer, eh bien, arrive. Et Joseph était un homme. Moi, j'aimerais parler de Joseph ce matin parce que souvent dans la période de Noël, on parle de Marie. On parle de Marie, ce que Marie n'est pas, puis ce que Marie peut être. Mais j'aimerais parler de Joseph, parce que quand on est capable de lire entre les lignes et de lire aussi ce que le texte nous dit, eh bien, je pense que Joseph était un homme de compassion, un homme qui était intègre, honnête et plein d'amour. Dieu n'aurait pas choisi n'importe qui, justement, pour lui confier son fils. C'était un homme humble qui avait reçu un appel céleste et qui s'appliquait par-dessus tout à obéir à Dieu plutôt que de faire ce qu'il voulait dans sa vie. Et en lisant ce passage, je peux voir un homme qui possède certaines caractéristiques qui font de lui quelqu'un de très spécial. Et c'est important pour nous, je pense, en tout cas ce matin, j'espère que ça va vous encourager. Moi, ça m'a encouragé à préparer ce message, de vous rappeler, de nous rappeler qu'on est quelqu'un de très spécial aux yeux de Dieu. Amen. Nous sommes quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Dieu nous a retirés des ténèbres pour nous amener à la lumière et faire de nous des héritiers. Nous sommes quelqu'un de très spécial aux yeux de Dieu. Mais non seulement nous sommes quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu, mais Dieu a un appel particulier sur chacune de vos vies. Et cet appel particulier, ce n'est pas un appel qui est terrestre, c'est un appel qui est céleste, parce que cet appel, il vient d'en haut. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Celui qui fait s'accomplir ses propres œuvres, c'est un appel purement terrestre. Il le fait en vain, parce que Dieu n'est pas glorifié. Mais chacun, on a reçu un appel qui vient d'en haut, qui est céleste, et Dieu veut, à travers cet appel, se glorifier en chacun de nous. Pardon. Joseph était ce genre d'individu que nous devrions tous nous efforcer d'imiter. Et je suis presque certain que le Seigneur ne nous appellera pas à vivre ce que Joseph a vécu, je suis particulièrement, ou je dirais, cependant convaincu que Dieu veut nous utiliser pour se glorifier comme il l'a fait lorsqu'il a utilisé Joseph. Et j'aimerais examiner ce passage avec vous ce matin et faire ressortir quelques détails de la vie de Joseph qui ont fait en sorte que Dieu a pu l'utiliser. Et ces détails, ils sont importants parce que ces détails, finalement, qui nous concernent aussi dans notre vie chrétienne. J'aimerais donc parler ce matin de Joseph, un homme rempli d'humilité et préparé personnellement par Dieu pour accomplir une mission céleste. Quand on regarde les versets 18 à 19, on peut réaliser que Joseph n'a pas été épargné par les épreuves ni par la tragédie. En fait, il a dû, tout au long de son appel, tout au long de sa mission, tout au long de la tâche que Dieu l'avait appelée, que lui avait confiée, il a dû échapper à des pièges. Il a dû affronter des situations difficiles qui en auraient amené plusieurs à abandonner. Mais voilà un rapide coup d'œil sur ce qu'il a dû affronter et sur la façon dont il a réagi peuvent nous aider à devenir ce que le Seigneur veut pour nous amener, pour nous, eh bien, oui, à rassembler, quoi. Regardez verset 18. La tragédie de découvrir des choses choquantes pour Joseph. Comme vous le savez, Joseph était fiancé à cette jeune femme appelée Marie. Et il faut se rappeler que pendant la période des fiançailles, eh bien, cette période était considérée à cette époque comme étant synonyme de mariage, sauf que le couple ne pouvait pas vivre ensemble et ne pouvait pas avoir de relations sexuelles. Et on s'attendait à ce que le couple se garde pur pour le jour où ils seraient réunis en tant que mari et en tant que femme. Et en même temps, il était courant, que la période de fiançailles, eh bien, dure quelques mois, voire plus, mais jamais, jamais des années. Mais voilà qu'une tragédie va marquer sa vie, car c'est pendant cette période de fiançailles que Joseph va découvrir, et là on se met dans la peau d'un juif, c'est pendant cette période de fiançailles que Joseph va découvrir que Marie est enceinte. Et là, il y a une chose qui est sûre, lui, c'est pas lui qui l'a mis enceinte. Nul doute qu'elle a partagé avec lui qu'elle se trouve enceinte par la puissance du Saint-Esprit, mais voilà qui avait déjà entendu parler que d'une telle chose. Et Joseph savait comment on concevait un bébé, et cette nouvelle va sûrement profondément le bouleverser. Regardez verset 18-19. Comme c'est le cas pour la plupart des hommes, Joseph attendait avec impatience le jour où lui et Marie seraient réunis pour partager leur vie ensemble. Il était probablement en train d'aménager la maison où ils vivraient ensemble et il était sûrement occupé à rassembler tout ce dont ils auraient besoin pour partager leur vie. Et je suis à peu près certain que ses journées étaient bien remplies, que la nuit, il rêvait à tout ce qui serait sa vie avec Marie et les enfants qu'il aurait avec elle. On a juste simplement ceux qui ont déjà été mariés. Eh bien, vous savez ce que c'est la période avant le mariage. Si la femme est occupée à préparer son mariage, l'homme est souvent aussi occupé à travailler dans la maison pour faire en sorte d'organiser, de faire en sorte que ce soit habitable, quoi, hein, du mieux possible. Mais voilà comme une gifle puissante qu'il reçoit en pleine figure. Il apprend la nouvelle qu'il vient de briser tous ses rêves et tous ses espoirs. Marie est enceinte et il n'est pas le père de l'enfant qu'elle attend. Et sur le coup, je suis convaincu que cette nouvelle, frères et sœurs, elle doit lui avoir arraché le cœur. Cela devait être terriblement douloureux pour Joseph, car tous ses rêves, tous les rêves qu'il avait faits, tous les espoirs qu'il avait mis dans ce mariage et tous les plans qu'il avait prévus venaient de s'effacer devant lui. Joseph fait maintenant face à un dilemme. Verset 19, il est écrit que c'était un homme pieux. Cela signifie qu'il s'efforçait d'obéir fidèlement au commandement de Dieu. Il savait qu'il était écrit dans la loi que lorsqu'une femme était reconnue coupable d'adultère, elle devait être lapidée. Mais il y avait une autre option pour lui. La loi disait aussi que si un homme avait quelque chose à reprocher à sa femme, il rédigeait alors une lettre de divorce qu'il lui remettait et il la renvoyait chez elle. Comme il y pensait, c'est ce que le texte nous dit, hein, comme il y pensait, parce qu'il ne voulait pas, dénoncer Marie publiquement, pour éviter qu'elle soit lapidée, il a pensé que la meilleure chose à faire, c'était de rompre secrètement ses fiançailles, en lui remettant une lettre de divorce et en la renvoyant tranquillement chez elle. Je suis convaincu que ça doit lui briser le cœur de renvoyer une femme qu'il aimait, mais c'était la meilleure décision qu'il pouvait prendre face à la loi. Chers amis, les choses ne sont pas toujours nécessairement faciles dans la vie. Nous faisons de notre mieux pour ce que nous avions planifié, se réalise, comme nous l'avions prévu. Puis quelque chose survient sans crier gare, on est pris par surprise et on voit nos espoirs, nos plans et nos rêves être brisés en mille morceaux. Mais comme Joseph, frères et sœurs, nous oublions que Dieu travaille dans les coulisses. Nous oublions que trop souvent, c'est Dieu qui brise nos rêves et que les choses qui surviennent dans nos vies ne sont pas des accidents, mais qu'elles sont minutieusement planifiées par lui de façon à nous aider à progresser dans notre foi. Amen. Pas facile, ça, hein? Pas facile, hein? Mais on voit toujours le diable partout, hein? Mais Dieu est là. Dieu est en contrôle de vos vies. On lui appartient. Dieu est en contrôle pleinement de nos vies. Et ce qu'il veut faire à travers nos vies, c'est qu'on puisse nous amener à répondre à l'appel céleste qu'il a placé sur chacune de nos vies, mais aussi à briser souvent des rêves, des ambitions qui sont personnelles, qui ne viennent pas de lui. Tout ça parce qu'il veut, à travers ses enfants, il veut se glorifier. C'est parfois difficile à comprendre, mais c'est toujours comme ça que ça se déroule. Car voyez-vous, notre Dieu agit dans nos vies de manière à ce que nous ne puissions pas nécessairement toujours comprendre au tout début ce qui nous arrive. Car ce qu'il pense, Isaïe 55, versets 8 et 9, car ce qu'il pense n'a rien de commun avec ce que nous pensons, et nos façons d'agir n'ont rien de commun avec les siennes. Il y a autant de distance entre ses méthodes et les nôtres, entre ses pensées et les nôtres, qu'entre le ciel et la terre. Ses plans pour nous ne sont pas nécessairement ce que nous aurions choisi pour nous-mêmes. Vous pouvez être quelqu'un d'irréprochable, droit, fidèle à Dieu, vous tenir à l'écart du mal, et pourtant, comme Job, vivre des situations qui peuvent dépasser votre entendement. Et quand vous lisez l'histoire de Job, le premier chapitre, hein, à deux reprises, on nous dit que Job était un homme intègre, un homme qui était juste, un homme qui craignait Dieu. Ouais. Pardon. Frappé d'une méchante maladie de la peau depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, Job a pu dire, « Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? » Job, chapitre 1, dans les deux premiers chapitres. Chers amis, les plans de Dieu sont toujours les meilleurs, même quand ils nous atteignent profondément. Ça peut être dans la maladie, ça peut être dans la perte d'un emploi, ça peut être dans n'importe quoi, mais Dieu, les plans de Dieu sont toujours les meilleurs, même quand ils nous atteignent profondément. Nous savons d'ailleurs, et je vais répéter Romains chapitre 28, qui est difficile souvent à encaisser, mais nous savons d'ailleurs que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan, et nous pouvons ne pas aimer lorsque le Seigneur brise nos rêves ou modifie nos plans, mais quand tout a été dit et fait, nous constatons que son plan était le meilleur plan de tous. Amen. Son plan était le meilleur plan de tous. Ouais. Lorsque nous lisons la vie de Joseph dans la Genèse et que nous pensons au cheminement qu'il a parcouru et au plan que Dieu avait prévu pour lui, de quitter la place privilégiée qu'il occupait dans la maison de son père pour ensuite lui faire faire un court séjour dans une citerne, lui faire quitter son pays d'origine pour l'envoyer en Égypte, le faire servir comme esclave dans une maison, se retrouver en prison pendant plusieurs années parce qu'il avait obéi à Dieu. Et à la fin, devenir l'égal de Pharaon, ça c'était le plan de Dieu pour Joseph. À vue humaine, nous ne comprenons pas, et sur le coup, il a dû aussi être un souci pour Joseph. Mais Dieu avait un plan pour lui, pour son peuple. Et rien de cela ne serait arrivé si Dieu n'avait pas d'abord brisé ses rêves et dans un deuxième temps brisé son cœur. Lorsqu'il a eu ces deux visions, je suis convaincu qu'il ne pensait pas que ce serait en Égypte que ça s'avancerait avec ses frères. Ouais. Peut-être que les plans de Joseph, les rêves de Joseph, ça devait se placer là où il était, avec ses frères, avec son père. Mais Dieu avait un plan particulier pour lui. Et Joseph lui-même va le reconnaître plus tard lorsqu'il dira à ses frères, « Dieu, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. » Frères et sœurs, si nous rêvons d'être utilisés par le Seigneur pour accomplir une grande œuvre, nous pouvons être certains que de grandes épreuves nous attendent en cours de route. La qualité, la quantité ou la grandeur de votre appel, eh bien, ce qui se greffe à ça, c'est aussi des épreuves qui sont équivalentes. Quand vous regardez les grands hommes de Dieu, à travers qui Dieu a travaillé, à travers qui Dieu a fait des réveils, ce sont des gens qui ont été rejetés, non pas seulement par le monde, mais même par l'Église, parce que ça dérangeait l'Église qui dormait, qui était dans le coma à leur époque. Des gens par qui des saints, des milliers, des centaines de milliers de personnes sont venus au Seigneur, et pour certains, à cause d'une certaine position théologique, eh bien, ces gens passent pour des hérétiques aujourd'hui, alors que Dieu a accompli des miracles, s'est glorifié à travers ces hommes. Oui, il y a de grandes épreuves, non seulement d'être rejeté par le monde, mais aussi d'être rejeté par l'Église. Mais ce qui compte le plus, ce qui est le plus important, frères et sœurs, c'est de ne jamais être rejeté par Dieu. Amen. Ça, c'est ce qui est le plus important. Oui. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Oui. Il lui a dû se cacher près du torrent de Kérit avant de pouvoir affronter courageusement les 4 prophètes de Baal sur le mont Carmel. David a dû se battre seul contre des lions et des ours avant d'être prêt à affronter Goliath devant toute l'armée d'Israël. Il nous est difficile de comprendre, mais ceux que Dieu a utilisés pour se glorifier, il les a souvent fait passer par de grandes, grandes épreuves. Regardez les versets 20 à 23. Au milieu de cette grande tragédie survenue dans la vie de Joseph, Dieu avait un plan pour lui, frères et sœurs. Et vous qui êtes assis ce matin, ici dans cette salle, Dieu a un plan pour vous ce matin. Est-ce que vous en êtes convaincu que Dieu a un plan pour vous ce matin? Oui. Le plan de Dieu, il est autre que de vous voir assis à tous les dimanches dans cette salle, frères et sœurs. Dieu a un plan pour vous ce matin. Vous êtes des serviteurs, vous êtes des servantes de Jésus-Christ. Oui. Ouais. Dieu a un plan pour vous comme il avait un plan pour Joseph dans l'Ancien Testament, comme il avait un plan pour Joseph dans le Nouveau Testament. Ouais. Pardon. Il va lui donner une tâche à remplir que plusieurs auraient refusée. Mais c'était une tâche que Joseph accepta et qu'il va accomplir par la foi. Cette grande tragédie qui aurait pu gâcher sa vie va plutôt devenir un appel de Dieu qui va marquer sa vie. Cette tâche lui fut confirmée par révélation divine, verset 20. « Comme il pensait rompre avec Marie, nous dit le texte biblique, un ange du Seigneur va lui apparaître dans un rêve en lui disant de ne pas craindre de prendre Marie comme épouse, car c'était par la puissance du Saint-Esprit qu'il attendait un enfant. » Et il avait sûrement besoin que quelqu'un d'autre qu'un homme puisse lui raconter que sa femme était tombée enceinte sans avoir de relation avec un homme, n'est-ce pas? Verset 20-21, cette tâche, elle comportait des exigences bien définies. Non seulement Joseph ne devait pas renvoyer Marie et risquer qu'elle se fasse lapider, mais il devait la prendre pour femme et accepter que son enfant, comme si son enfant serait le sien. Et l'ange va lui révéler le nom de l'enfant tout en lui donnant la responsabilité d'en prendre soin. Regardez, verset 21-23. Cette tâche, par contre, elle comportait de merveilleuses choses. Après avoir entendu ce qu'impliquait cette mission que Dieu lui confiait ou cet appel, Joseph va apprendre une grande vérité. L'enfant que Marie porte en elle est l'accomplissement d'une grande promesse que Dieu avait faite au serpent dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je suis pas convaincu qu'Adam a compris parfaitement ce que Dieu lui avait dit. Je vais vous la lire. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui mordras au talon. Je suis pas convaincu que Satan, le serpent, il a sûrement compris, mais je suis pas convaincu qu'Adam a compris la première prophétie qui annonçait la venue d'un sauveur un jour. Ce qui est intéressant quand on parle que la sienne t'écrasera la tête, eh bien, vous savez que le mot Golgotha, ça veut dire crâne, hein? Et c'est vraiment, moi, j'ai une belle image de ça, c'est que Dieu est en train de dire à Satan un jour, hein, la croix, je vais te l'enfoncer dans le crâne, quoi. Ouais. Bon, celui que je vais envoyer, le sauveur que je vais envoyer, il va sortir victorieux. Tout ce que tu peux faire, tu vas le blesser. La morsure au talon, c'est pas une blessure qui est mortelle, hein. Tu vas le mordre au talon, mais lui, il va t'enfoncer. Je vais t'enfoncer la croix dans le crâne et je vais montrer devant le monde entier. Je vais t'humilier devant le monde entier parce que non seulement il va avoir remporté la victoire sur le péché, mais je vais le ramener aussi de la mort à la vie. Le pouvoir que tu as sur la mort, eh bien, en Jésus-Christ, je vais te l'enlever. Et frères et sœurs, c'est ce que nous vivons aussi en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi dans Corinthiens, Paul dit que les chrétiens et les saints sont endormis. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. On a la conviction dans notre cœur que Dieu va nous ramener de la mort à la vie. La mort ne peut plus nous retenir comme elle n'a pu retenir Jésus. Ouais, c'est extraordinaire, ça. Quelle vérité extraordinaire. Il n'y a aucune religion qui peut vendre cette salade-là. Et on ne vend pas une salade, nous. Hein? Ouais. C'est une assurance, c'est une certitude. C'est pas, mais peut-être que, c'est une certitude. Et j'espère que c'est votre certitude à tous ici ce matin. Que Dieu un jour va vous ramener de la mort à la vie parce que Dieu ne vous voit plus avec vos péchés, mais il vous voit à travers Jésus-Christ qui était sans péché. Ouais. Ça, c'est magnifique. Quelle belle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Oui. Oui. Il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, chaque agneau qui était tué annonçait la venue de celui qui était en train d'être formé dans le ventre de Marie. Tous les prophètes ont cherché à connaître ce moment glorieux, nous dit la parole, où Dieu enverrait un sauveur dans le monde. C'est le prophète Isaïe qui a dit, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et l'enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » La création entière, frères et sœurs, gémissait pour voir le jour où cet enfant viendrait et délivrerait ce monde de l'esclavage du péché. Joseph entendra ensuite l'ange lui dire que cet enfant sera appelé Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sera celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, c'est le Messie à venir et son nom définissait vraiment sa mission, l'Éternel sauve. Je suis certain que Joseph ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, ni l'importance du moment qu'il était en train de vivre, car si c'était le cas, il aurait compris que Dieu entrait dans ce monde à travers le sein d'une vierge. Il aurait compris que Dieu, qui est esprit, qui occupe tout l'univers, venait dans ce monde dans la personne d'un enfant sans défense. Il aurait su que l'Éternel viendrait vivre dans sa maison, que l'Éternel viendrait apprendre son métier de charpentier, pardon, qu'il s'assoirait sur ses genoux et qu'au moment fixé, il allait mourir pour tous les péchés du monde. Il est évident que Joseph ne comprenait pas tout, mais je crois qu'il avait suffisamment d'indices pour croire que la situation qu'il vivait, pardon, et qu'il avait pensé être son pire cauchemar, Dieu était en train de lui faire la plus grande bénédiction qu'il recevrait dans sa vie. Il avait suffisamment compris qu'il pouvait porter sur ses épaules la charge que Dieu l'avait appelé à supporter. Et frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous arrive de vivre des choses difficiles à cause de notre foi, et on peut être porté au découragement. Mais à travers des grandes épreuves qu'on peut vivre, Dieu est en train de nous préparer une grande bénédiction. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu aussi, la bénédiction, frères et sœurs, on n'est jamais perdant dans l'épreuve. Dieu nous donne une bénédiction qui correspond également à l'épreuve qu'on a vécue, sinon supérieure à celle qu'on a vécue. Ouais. Dieu n'est jamais en dette envers ses enfants, non seulement au niveau argent, mais aussi au niveau des bénédictions. Quand Dieu nous envoie une épreuve, il sait déjà d'avance qu'il y a déjà la solution d'avance pour nous en sortir. Mais en plus, il sait qu'il y a une bénédiction qui va accompagner ça parce qu'il y a un grand enseignement dans chacune de nos épreuves que Dieu veut nous transmettre. Amen. Il arrive souvent que nous puissions comparer la façon dont nous voyons la vie à un défilé dans la rue. Lorsque vous êtes au niveau de la rue, tout ce que vous êtes capable de voir du défilé, c'est la partie qui passe directement devant vous à un moment bien précis. Et là, vous gardez en mémoire ce qui vient de passer devant vous, mais vous n'avez aucune idée de ce qui va venir, parce que vous n'êtes pas capable de voir. En arrière, vous êtes au même niveau que le défilé. Vous devez attendre jusqu'à ce que le défilé passe devant vous pour saisir, réaliser finalement la grandeur de ce défilé ou l'ampleur du défilé. Pourtant, si vous grimpiez sur le toit d'un de ces grands immeubles qui se trouvent dans les centres-villes, vous seriez en mesure de voir le défilé dans toute son intégralité. Vous pourriez voir le commencement, vous pourriez voir le milieu, vous pourriez voir la fin. Il n'y aurait pas de surprise. Frères et sœurs, c'est de cette façon, est-ce que c'est de cette façon qu'on voit la vie? Tout ce que nous pouvons voir, c'est la partie qui passe devant nos yeux au moment même. Nous gardons un souvenir flou de ce qui s'est passé avant, mais nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend après. Cependant, frères et sœurs, notre Dieu qui est au-dessus de tout ça, il n'y a aucune surprise pour lui. Il connaît la fin depuis le commencement parce que c'est lui-même qui l'a planifié depuis toujours. Ouais. Je parlais avec quelqu'un hier au G30. Nos grands de ce monde sont en train de se bagarrer. Ils se bombent le torse, une bande d'orgueilleux. Ils se bombent le torse pour essayer de montrer à l'autre lequel est le plus puissant. Et ils sont en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu. Quelqu'un qui lit sa Bible, lisez Matthieu chapitre 24, les grands de ce monde sont en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu. Dieu a dit qu'il réunirait toutes les armées autour d'Israël. Il est en train de toutes les amener, une par une. Ils sont même en train de se battre pour savoir lequel qui va arriver le premier. Ouais. Ils sont en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu. Frères et sœurs, je m'adresse peut-être à la dernière église sur terre ce matin. Vous êtes peut-être la dernière église. Il y a eu l'église primitive et il y a la dernière église. Vous faites peut-être partie de cette église ce matin. Oui. Regardez, s'achenir le temps dans lequel nous vivons, frères et sœurs, pour ne pas être pris de court, pour ne pas être laissés. La parole nous a dit, soyez prêts. Est-ce qu'on est tous prêts ce matin? Oui. On a loué le Seigneur, c'est vrai. Est-ce qu'on est tous prêts? Est-ce que Dieu règne vraiment en Christ dans nos vies ce matin? La meilleure chose que nous pouvons apprendre à faire, c'est simplement lui faire confiance pour qu'il nous accorde jour après jour le meilleur pour nos vies. Et lorsque nos vies sont brisées et que nos espoirs sont réduits en miettes sur les rochers déchiquetés de la réalité, nous avons besoin de faire confiance à la parole de Dieu qui nous dit que notre Père est toujours en contrôle et qu'il prendra soin de ses enfants. Malgré ce que vous et moi nous pouvons parfois penser, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Amen. Dieu sait ce qui est le mieux pour moi, pour vous. Puissions-nous ne jamais oublier que c'est à partir de l'épave de nos plus grandes blessures que Dieu en fait souvent ressurgir pour nous les plus grandes bénédictions. Même si l'avenir peut vous paraître sombre, n'arrêtez jamais de tenir la main puissante de Dieu. Il peut vous conduire lui-même à travers des lieux sombres, mais il ne vous abandonnera jamais. Le psalmiste à son époque pouvait dire, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et si on avait été devant un psalmiste, un homme de Dieu qui était sans espérance, il aurait dit, quand je marche dans la vallée de la mort. Voyez-vous la différence? Ça, c'est l'espérance des gens du monde. Mais le psalmiste, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et pour qu'il y ait de l'ombre, frères et sœurs, il faut qu'il y ait de la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Le psalmiste était convaincu, quand il arrivait dans des épreuves épouvantables, quand sa vie était menacée, Jésus était avec lui. La lumière était avec lui, frères et sœurs. Il n'était jamais seul. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ouais, Christ est avec moi. Christ est là, il tend toujours la main pour me sortir. Peu importe où Dieu conduit vos pas, vous pouvez compter sur lui pour combler amplement ce dont vous avez besoin. Trois fois, l'apôtre Paul a prié le Seigneur de le délivrer de sa souffrance. Le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin. » Car ma puissance se manifeste pleinement quand tu es faible. Frères et sœurs, c'est vrai qu'on ne devrait rien demander à Dieu, sinon cette prière. Seigneur, que ta grâce ne me fasse jamais défaut. Que ta grâce ne me fasse jamais défaut, Seigneur. Ouais. Que ta grâce ne me fasse jamais défaut, sinon je suis perdu, Seigneur. Ouais. Perdu. Ouais. On vient, on est en train d'étudier notre Père à l'étude biblique, Et vous voyez dans la façon que Jésus nous a donné le Notre Père, que c'est la prière que le Seigneur nous a donnée. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Mais souvent, dans nos prières le matin, on est pressé. Et ce qu'on fait, on vient se présenter devant le Seigneur, puis on le bombarde de nos revendications, de nos requêtes, de nos besoins. Alors qu'on devrait lui dire, Seigneur, je ne suis même pas digne de me présenter devant toi, je me présente grâce à ce que Christ a accompli pour moi sur la croix. Seigneur, tout ce que je te demande, que ta grâce ne me fasse pas défaut tout au long de la journée, Seigneur. On devrait s'arrêter là-dessus, là, puis partir travailler, puis méditer ce qu'on vient de lui dire, quoi. Ouais. Ouais. Que la sainteté de ton nom soit reconnue dans ma vie aujourd'hui, avec les uns et les autres que tu vas placer sur mon chemin. Ouais. Que ta volonté soit faite, non pas sur la terre et dans le ciel, ouais, sur la terre à travers moi. Que ça commence par moi, que je puisse accomplir ta volonté dans ma vie. Ouais. Pour ne pas te déshonorer, Seigneur. Allez, notre Père, quand on commence à le gratter, là, c'est pas juste une prière qu'on a appris par cœur. Hein. Ça nous transperce parce que chaque passage nous ramène, c'est quelque chose de très personnel. Chaque strophe est quelque chose, chaque ligne est quelque chose de très personnel. Ouais. Ouais. Et quand il a dit à Paul, ma grâce te suffit, Paul il a compris. Hein. Il a compris. Hein. Ouais. Parce que Seigneur, si c'est pas de ta grâce, je suis perdu. Je suis disqualifié. Je suis rien. Il y a quelqu'un qui a dit dans la parole, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Hein? Mais ce matin, je peux dire devant le Seigneur, moi, qu'est-ce que je suis, Seigneur, ce matin pour que tu penses à moi? Qu'est-ce que vous êtes pour que le Seigneur puisse penser à vous ce matin? Qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu puisse penser à nous ce matin, frères et sœurs? Quand le soleil s'est levé, Dieu avait tous nos noms dans sa tête. Et tous ceux qui sont sauvés, Dieu avait tous leurs noms gravés dans ses mains. Qu'est-ce que nous sommes? Pour que Dieu, à chaque jour, puisse lire nos noms dans ses mains. Qu'est-ce que nous sommes, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous êtes, frères et sœurs? Si ce n'était pas de sa grâce. Ouais. Et l'appel céleste que vous avez dans vos vies, c'est par grâce que Dieu vous l'accorde. Et frères et sœurs, vous avez tous un appel dans vos vies. Et vous aurez tous des comptes à rendre. Tous ceux qui ne répondent pas à cet appel, vous aurez des comptes à rendre devant le Seigneur. Ça, c'est clair. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes nés de nouveau, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose qui se raccroche à un enfant de Dieu, vous êtes aussi des serviteurs de Dieu. Ouais. Êtes-vous en train de servir le Seigneur ce matin? Là où Dieu vous a placé, êtes-vous en train de le servir? Ouais. Joseph, c'était rien, hein? Un gars sans instruction, hein? Un gars d'une intelligence moyenne, hein? Mais il avait des qualités. Puis souvent nous manque en nous. Hein. C'était un homme pieux. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Qui s'appliquait à obéir à ce que Dieu lui demandait. Qui ne regardait pas ce que les autres pensaient de lui, mais ce que Dieu pensait de lui. Et il était qualifié. Dieu l'a qualifié dans sa grâce. Ouais. Et il en a fait un serviteur extraordinaire. On en parle encore aujourd'hui. Ouais. Il n'a pas été oublié. Frères et sœurs, quand vous allez mourir, qu'est-ce que l'Église va se rappeler de vous, frères et sœurs? Qu'est-ce que l'Église va se rappeler de vous quand vous allez mourir? Qu'est-ce que le pasteur va être capable de raconter quand le cercueil sera en avant ici de la chair? Sur vous. Ouais. Ouais. Pour les êtres humains, Joseph aurait été sûrement disqualifié. Pour les pharisiens, non. C'est les pharisiens probablement qui auraient dit, « Hey, c'est à nous à recevoir le Sauveur. » Ouais. Mais Dieu était cherché les choses folles du monde. Pour recevoir le Seigneur Jésus. Dieu a un plan pour votre vie. La tâche ou la mission ou l'appel qu'il a prévu pour vous peut ne pas être facile à accomplir. Mais en cours de route, il y a des moments où le ciel se rapprochera de la terre et Dieu vous donnera un aperçu de ce qu'il peut faire dans vos vies. Ce sont des moments qui font en sorte que l'appel que nous avons reçu de Dieu devient supportable. En terminant, les versets 24 à 25. Le vrai test de maturité n'est pas dans ce à quoi une personne est confrontée dans la vie, ni dans la mission qu'il est appelé à accomplir. La vraie preuve qui démontre la profondeur du caractère d'une personne se voit dans ce qu'elle fait avec ce que Dieu lui a donné. Que faites-vous ce matin avec ce que Dieu vous a donné, frères et sœurs? Ouais. Il y a des gens qui sont autrement mieux qualifiés que moi pour servir le Seigneur. Il y a des gens qui sont autrement mieux qualifiés que moi pour prêcher l'Évangile. Moi, je sers le Seigneur parce que j'ai dit, Seigneur, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Point. Et Dieu m'utilise à la seule place que je ne veux pas être. Pasteur. La seule place. Ouais. Et Dieu appelle des gens à le servir dans l'Église. Peut-être à temps plein, peut-être à temps partiel, peut-être uniquement dans l'Église locale, Mais Dieu appelle des gens, si en êtes-vous convaincu? Qu'est-ce qui vous freine? Vos maisons? Vos comptes de banque? Votre situation? Votre travail? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui nous freine, frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous freine? Ouais. La période de Noël, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Le cadeau, il est gratuit. Le salut, il est gratuit. Mais la sanctification n'est pas gratuite. Il y a un prêt à payer pour vivre comme Dieu nous demande, frères et sœurs. Et le prêt à payer, c'est de renoncer à certaines choses. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à ces choses pour que ce cadeau qu'on a reçu de Dieu un jour dans nos vies continue à grandir dans nos vies, continue à prendre de la valeur dans nos vies et qu'on puisse, au fil des années, découvrir davantage l'ampleur de ce cadeau que Dieu nous a donné? C'est une chose d'être appelé à accomplir une tâche pour le Seigneur, mais c'en est d'une autre d'accomplir cette tâche sans poser de questions. Nous avons vu la tragédie qui a marqué la vie de Joseph. Nous avons aussi vu l'appel qui a marqué sa vie. Prenons un moment pour réfléchir à la qualité du témoignage rendu par cet homme dans sa vie. C'est la façon que Joseph a répondu à la tragédie qui est survenue dans sa vie et l'appel que Dieu a placé sur lui, qui nous donne un aperçu inestimable du témoignage de cet homme. Verset 24. Le témoignage d'une confiance inconditionnelle en Dieu. Beaucoup d'hommes se seraient éloignés du Seigneur et de Marie à ce moment-là, mais pas Joseph. Dès qu'il s'est réveillé, il s'est levé et il a exécuté l'ordre du Seigneur. Il ne fait aucun doute que les gens ont parlé entre eux de ce jeune couple qui avait été incapable d'attendre, d'être officiellement marié avant de passer à l'acte. Vous imaginez comment ça devait cacasser dans la ville, hein, dans le village? Vous imaginez, hein? Mais voilà, à ce moment-là, ce n'était pas ce que les gens pensaient de lui qui intéressait Joseph, mais le désir d'obéir à l'appel de Dieu que Dieu avait placé sur sa vie, ou si vous préférez accomplir la volonté de Dieu. Et en dépit de ces questions, de ses craintes et de ses préoccupations, Joseph a décidé de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Quel témoignage, frères et sœurs! Le témoignage, verset 25, d'un engagement inébranlable. Même lorsqu'il a pris Marie comme épouse, il s'est abstenu de toute relation sexuelle avec elle. Il a obéi au Seigneur, il a préservé sa virginité jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Voici un homme qui était non seulement prêt à supporter la honte et le reproche qui lui était adressé par la communauté, mais qui était prêt à mettre de côté ses propres désirs, ses propres besoins et ses droits personnels, parce qu'il ne voulait rien de moins qu'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Encore une fois, je dis, quel témoignage, frères et sœurs. Verset 25 encore, le témoignage d'avoir achevé sans faillir la tâche à laquelle il avait été appelé. Quand l'enfant fut né, Joseph fit un autre pas de foi et il appela l'enfant du nom de Jésus, exactement comme l'ange Gabriel le lui avait ordonné. Et ce que nous savons à partir des Écritures, c'est que Joseph n'a jamais hésité à exécuter parfaitement les ordres qu'il avait reçus pour sa vie. Malgré le fait qu'il avait été appelé à croire à l'impossible et à faire ce qui était incroyable à vue humaine, il n'a jamais hésité. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Encore une fois, je dis, quel témoignage, frères et sœurs! Alors que nous avançons dans la vie, nous avons découvert déjà que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et ce plan, il veut l'utiliser pour se glorifier, frères et sœurs. Nous avons aussi appris que ce plan peut être difficile à accomplir, que nous pouvons rencontrer des obstacles peu commodes sur notre chemin, des bosses et des trous qui cherchent à nous ralentir un peu pour nous décourager, mais que celui qui a une véritable foi en Dieu ne cherche jamais à prendre le chemin le plus facile. Parce que souvent, le chemin est le plus facile, hein? C'est celui aussi qui est le plus facile pour se perdre. Ouais. Celui qui a la foi qui sauve est prêt à aller là où Dieu le conduit, peu importe le prix à payer et peu importe les conséquences. Ouais. Ouais. Et je suis content de ne pas savoir, de ne pas connaître l'avenir, parce que je ne serais peut-être pas en Belgique aujourd'hui. Mais petit à petit, Dieu m'a donné la révélation de son plan, de son appel. Ouais. Parce que la première fois que j'ai répondu, si j'avais su que je m'en venais en Belgique, que je devais tout abandonner ce que j'avais au Québec, mes copains, mes amis, ma maison, ma voiture, ma piscine, et ainsi de suite, j'aurais peut-être dit non. Ouais. Mais Dieu sait comment nous préparer. Et ça commence souvent par des petites choses. D'abord, servir dans l'Église. Et là, c'est cette semence du service auprès du Seigneur qui va grandir et qui va nous amener à faire un deuxième pas, quelque chose d'un petit peu plus grand que le Seigneur va nous demander. Pour sa gloire. Et là, on est prêt à dire oui parce qu'on a déjà dit oui une première fois. Mais c'est la première fois qui est difficile à dire et pourtant, c'est dans les petites choses. La parole, elle est claire. Soyez fidèles dans les petites choses et Dieu vous confiera après de grandes choses. Dieu ne veut pas commencer à nous donner un château. Il nous demande, es-tu prêt à dormir dans une tente? Es-tu prêt à dormir là où je t'appelle à dormir? Es-tu prêt à aller là dans le pays? Non, il ne commence pas avec ça. Hein? D'abord, dans ton église locale, je t'ai donné un don spirituel. Mets-le au service de la communauté. Tu te prends pour la petite orteille? Tu te prends pour la grosse orteille? Tu penses que c'est pas, ça ne vaut pas une main, ça ne vaut pas une épaule? Je tiens à vous dire une chose, frères et sœurs. Si quelqu'un vous coupe la grosse orteille, vous allez avoir besoin d'une canne pour marcher. Parce que c'est la grosse orteille qui vous permet de garder l'équilibre pour marcher. La grosse orteille, elle est aussi importante que l'épaule, que les hanches. Tous les membres dans le corps de Christ sont importants. Mais ils sont utilisés pour quelque chose de particulier. Les orteils, c'est pour nous aider à marcher. Les mains, c'est pour nous aider à manger, pour tenir des choses. La bouche, c'est pour nous aider à parler, hein? Nous faire parler. Mais chaque partie du corps est importante. Et vous faites partie du corps de Christ si vous êtes né de nouveau. Et chacun de vous, vous êtes important aux yeux de Dieu, autant que celui qui prêche. Peut-être que la responsabilité n'est pas aussi grande, mais autant que celui qui prêche, frères et sœurs. Amen? Oui. Celui qui a la foi qui sauve est prêt à aller là où Dieu le conduit, peu importe le prêt payé, peu importe les conséquences. Celui qui a cette foi dit, en apparence, cela ressemble à la pire chose à laquelle j'ai jamais été confronté dans ma vie. Mais je sais que Dieu m'a déjà devancé et qu'il a déjà planifié le chemin que je prendrai. Frères et sœurs, Dieu a déjà passé là où il va vous faire passer. Alors Dieu connaît le chemin sur lequel il va vous faire passer. Et non seulement il connaît le chemin sur lequel il va vous faire passer, mais il va rester sur ce chemin-là avec vous. Ouais. Pensez à l'ange de l'Éternel qui précédait toujours l'armée d'Israël. Ouais. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu vous précède toujours dans l'appel qu'il a pour vous, frères et sœurs. Vous n'êtes jamais tout seul. Et quand l'ange de l'Éternel précédait l'armée d'Israël, c'était toujours pour leur assurer une victoire, frères et sœurs. Et Dieu marche devant vous. La victoire, elle est déjà là. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui l'a remporté pour nous. Amen. Oui. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes excités par votre vie chrétienne? Est-ce que vous trouvez la vie chrétienne excitante? Ouais. Moi, je tiens à vous dire une chose, hein. Si la vie chrétienne était moins excitante que celle du monde, là, je retournerais dans le monde. Hein? Ouais. Je vais vous dire pourquoi elle est excitante. Parce que j'ai osé m'élever pour servir le Seigneur. Et quand vous servez le Seigneur, là, Dieu permet de vous voir, faire voir des miracles, les miracles qu'il accomplit à travers vos vies. Dieu vous permet de voir des choses extraordinaires que le monde n'est pas capable de vous montrer. Ouais. Ouais. Et si vous êtes en train de mourir d'ennui parce que vous êtes chrétien, hein, demandez au Seigneur qu'il vous réveille. Demandez au Seigneur qu'il vous bouscule. Puis qu'il vous montre à quel endroit il vous appelle, frères et sœurs. Ouais. Pour que votre vie soit excitante. Ouais. Pour que vous montriez aux gens que vous avez quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas, qu'ils recherchent inconsciemment, frères et sœurs. Ouais. Je suis en train de vous bousculer ce matin. Je suis en train simplement de vous partager, moi, ce que je vis. Quoi. Ouais. Et c'est pas facile, la vie chrétienne, quand on s'implique. C'est vrai que c'est pas facile. Et ce qui fait le plus mal, c'est parce que tu es persécuté par des frères, des fois, par des sœurs, des fois. Ouais. Et que tu plaçais de grands espoirs en un ou en une, et puis qu'ils abandonnent l'Église. Oui. Mais ça fait partie, comme on dit en anglais, ça fait partie de la game, hein? Oui. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui dirige toutes choses, hein? Et quand il y en a qui quittent, quand il y en a qui abandonnent, bien, Dieu permet de mettre en lumière, finalement, ce qui traîne dans le cœur de ces personnes-là, quoi. Oui. Mais on n'est pas là pour se ramasser des trophées, c'est Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui convertit. On a juste à prêcher l'Évangile. On a juste à partager la personne. En fait, bon, j'ai perdu le mot. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Voilà. Alors voilà, en apparence, cela ressemble à la pire chose à laquelle j'ai jamais été confronté dans ma vie, mais je sais que Dieu m'a devancé, qu'il a déjà planifié le chemin que je prendrai. Par conséquent, je ne regarderai ni à droite ni à gauche, mais je vais fidèlement placer mes pieds dans les traces de ses pas qu'il a déjà laissés devant moi. Je le suivrai partout où il m'envoie et je ne reviendrai pas en arrière malgré tout ce que je peux affronter dans ma vie. Et au moment même, cela peut ressembler à un cauchemar, mais je sais, frères et sœurs, que le plan de Dieu, c'est le meilleur plan pour moi et qu'il utilisera cette situation tragique et la transformera en victoire pour la gloire de son nom. Par conséquent, je peux dire, et il y a quelqu'un qui va me dire, qui a dit ça? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Les prophètes, Ésaïe. Savez-vous que Dieu voulait utiliser Joseph dans la vie de Jésus d'une manière puissante? Il ne faut aucun doute que Jésus, que Joseph était très impliqué dans la vie, dans la formation de Jésus en tant que jeune homme. Dieu a pris un pauvre et humble charpentier et il l'a utilisé pour accomplir une mission importante, pour une mission céleste. Frères et sœurs, à vue humaine, hein? À vue humaine, on n'aurait pas compris pourquoi Dieu n'aurait pas pris un grand théologien pour former son fils. Pourquoi Dieu n'a pas pris un grand théologien pour former son fils? Moi, je pense que le grand théologien, il aurait même osé essayer de vendre sa doctrine à Jésus et essayer de le confronter dans sa doctrine à lui, quoi. Ouais. Dieu a pris un humble, quelqu'un qui était humble, quelqu'un qui était pieux, quelqu'un qui aimait le Seigneur, quelqu'un qui craignait le Seigneur, ouais, plus que le monde. Savez-vous que Dieu est toujours à la recherche de personnes spéciales qu'il peut utiliser pour accomplir sa volonté dans le monde dans lequel nous vivons? Je suis certain qu'il ne vous demandera jamais de faire ce qu'il a demandé à Joseph et Marie, mais je suis persuadé qu'il a beaucoup de tâches difficiles qui doivent être encore être remplies aujourd'hui. Dieu cherche des gens qui le suivront malgré les situations tragiques qui surviennent dans la vie. Dieu cherche des gens qui accepteront les tâches qu'il leur assignera et qui iront de l'avant pour lui. Dieu cherche des gens qui possèdent cette sorte de témoignage qui les poussera à se rendre jusqu'au bout, et ce tant et aussi longtemps que leur tâche n'est pas terminée. Je vais vous donner un bête exemple. Hein. Êtes-vous, je vais donner ma question tout de suite. Êtes-vous ce genre de personne, frères et sœurs? Êtes-vous ce genre de personne? On a besoin de personnes dans le nettoyage ici pour que l'église soit propre, qu'elle soit accueillante. Vous sentez-vous digne en Jésus-Christ de pouvoir vous inscrire pour faire en sorte que la maison du Seigneur, là où on se rencontre, jour, semaine après semaine, puisse être attrayante et vous impliquer dans le nettoyage. Plus il y a de monde et plus l'espace passe. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tous appelés au nettoyage. Hein. Je parle à ceux qui se cherchent dans l'Église, qui cherchent à s'engager à quelque part. Ouais. Ouais. Est-ce que vous savez que quand on frotte la cuve des toilettes, le Seigneur est là dans la toilette avec nous? Et qui voit si on passe un peu trop loin ou si on fait semblant de nettoyer. Il est là. Hein? Même à nettoyer une cuve de toilette, on doit le faire comme si on le faisait pour le Seigneur. Hein? Ouais. Et c'est dans ces petites choses-là que Dieu nous teste. Hein? Ouais. Parce qu'on sait qu'il n'est pas fidèle pour bien nettoyer la toilette. Hein? Il sait très bien qu'on ne sera pas fidèle pour l'aider dans d'autres choses. Hein? Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus difficile, frères et sœurs? Il y a une scène ici et il y a 1 million d'euros ici. Lequel qui est, si je prends une scène, c'est rien une scène, hein? C'est vrai, hein? Est-ce que vous pensez que celui qui a pris la scène un jour viendra pour fouiller dans le paquet? Il n'a pas été capable de résister à une scène. Comment pourrait-il résister à 1 million d'euros? Il va peut-être prendre 3-4 billets, hein? Il va dire que ça ne paraît pas. Ouais, mais Dieu voit, hein? Ouais. Alors, si tu n'es pas capable de résister à une scène, demande-moi pas de te confier de grandes choses. Dans des gros montants, tu vas faire comme Judas, quoi. Ça va trempler les poches. Ouais. Ouais. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire quand on pense à ça. Hein? On a un Dieu merveilleux, quoi. Ouais. Êtes-vous ce genre de personne? Si oui, pourquoi ne pas vous présenter devant lui en disant, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Ou peut-être que vous êtes une de ces personnes qui avez vu ses rêves être devenir des cauchemars et que vous vous sentez dépassé par la tâche qui vous a été confiée. Pourquoi ne vous présentez-vous pas devant lui en vous appuyant sur la grâce dont vous avez besoin pour terminer votre mission? Je ne connais pas votre cœur ou votre besoin ce matin, mais je connais le Dieu que je sers et il vous aidera, il prendra plaisir à vous soutenir, frères et sœurs. Et en terminant, j'aimerais simplement vous laisser avec un mot de Dwight L. Moody. Si un homme est appelé par Dieu à un travail déterminé, Dieu sera avec lui dans ce travail et il réussira, quels que puissent être les obstacles. Frères et sœurs, quand un homme est appelé, une femme est appelée par Dieu à le servir dans un endroit bien déterminé, dans un ministère bien terminé, peu importe la position, peu importe les obstacles, il n'y a personne qui peut empêcher cette personne-là, d'empêcher cette personne-là de le servir là où Dieu l'a appelé à servir. Est-ce que vous en êtes convaincu ce matin? Est-ce que vous en êtes convaincu? Oui. Dieu vous appelle ce matin. Et ma prière pour 2018, c'est qu'on puisse tous se lever. Qu'on puisse tous se lever et dire, Seigneur, c'est vrai que je suis paresseux, j'étais paresseux en 2017, paresseux spirituellement. Et Seigneur, je veux me lever pour toi, je veux te servir, Seigneur. Je sais ce qui m'attend. Il y a des gens qui vont me critiquer. Il y a des gens qui vont me jalouser. Il y a des gens qui vont parler en mal de moi. Mais ça m'importe. Ça ne me dérange pas, Seigneur. Ce qui m'importe, c'est ce que toi, tu penses de moi. Parce que c'est ce qui compte pour moi, parce que je veux te glorifier. Les autres, Seigneur, je te les laisse entre les mains. Les critiqueux, les jaloux, les calomniateurs, je te les laisse entre les mains. Occupe-toi-en, Seigneur. Je ne veux pas être dérangé par ça, parce que je veux te servir. Je veux que mon cœur t'appartienne à 100% pour 2018. C'est un vœu. C'est un vœu. C'est mon vœu. J'espère que c'est votre vœu aussi. Que Dieu puisse vraiment vous servir pour 2018 pleinement pour la gloire de son nom. Amen. Je vous invite à